D'accord.
Voilà. Bon.
L'émission touche à sa fin.
L'émission touche à sa fin, il est 20h59. On va pas tarder à lancer le générique de fin et puis on va vous laisser avec Les Muses s'amusent. C'est une émission qui est différée puisque notre camarade Jean-Manuel n'est pas présent dans le studio, mais il a pris la peine de l'enregistrer, de nous la confier pour qu'on la passe. Voilà. Bon, il s'était un petit peu planté dans les génériques. Il avait mis le générique du Proton, mais ça, j'ai rectifié le tir. Ah, sacré Jean-Manuel. Mais il nous teste, tu vois, il nous teste. Il nous file des missions comme ça, et puis en fin de compte, ouais, si on est attentif, si on écoute. Bah, bonne écoute des Muses s'amusent, qui sera en deux volets consacré au musée carnavalet, premier volet ce soir. Et puis nous, on se retrouve dans 15 jours, le 20,
ouais.
20 mai, on ne sait pas sur quoi.
On vous laisse. Surprise.
Merci d'avoir écouté. Et puis, au 20 mai.
Ciao. À ciao.
Nous réaliserons l'idéal du verre.
Car moi, je veux
c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. Parce que c'est notre projet.
Vive la révolution.
S'amuse. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité.
Bonsoir. Ce soir, nous allons parler du musée Carnavalet de Paris. Qu'est-ce que c'est que le musée Carnavalet ? C'est le musée des collections historiques de la ville de Paris. C'est un très beau musée, pas très grand, mais extraordinairement riche, puisque le catalogue des œuvres qu'il conserve a 625 000 numéros. Bon, mais rassurez-vous, Carnavalet n'en expose que 3800. Ça fait quand même un parcours d'un kilomètre et demi si l'on passe par toutes les salles. Il a été rénové récemment, Certaines œuvres en sont reparties dans les réserves, d'autres sont apparues. Le lieu est un peu mieux éclairé, un peu plus agréable à regarder, et le musée suggère un itinéraire de visite que nous allons en gros suivre et qui permet d'être moins perdu dans les deux bâtiments qu'il compose, l'hôtel Carnavalet et l'hôtel Le Pelletier de Saint-Fargeau, qui étaient deux hôtels particuliers du Marais, donc jamais conçus pour être des musées, et on pouvait donc facilement s'y perdre. Si aujourd'hui on suit plus ou moins le parcours proposé, on a quand même une visite extrêmement complète et on ne se perd pas. Dans le cycle d'émissions que je vais faire sur ce musée, je vais en règle générale donner le numéro de la salle. Attention, ces numéros de salle sont très souvent difficiles à identifier et même les gardiens souvent ignorent quel est le numéro de la salle dans laquelle ils se trouvent. Cela dit, je les donne quand même parce que pour les gens qui veulent prendre le podcast de cette émission et s'en servir le cas échéant pour aller au musée Carnavalet, malgré tout, cela peut s'avérer utile si nous sommes bien d'accord que ça n'est pas nécessairement facile de trouver les petits panneaux qui vous donnent les numéros de salle. Juste quelques mots sur l'historique du musée. En 1548, un grand magistrat, M. Jacques de Ligneris, se fait construire un hôtel particulier. En 1578, cet hôtel particulier devient la propriété de Françoise de la Baume, veuve d'un noble breton appelé Monsieur de Kernevenois. Alors Kernevenois, c'est un peu difficile pour les Parisiens à prononcer. Et donc très rapidement, on va surnommer Monsieur de Kernevenois, Madame de Kernevenois, Carnavalet, et de là vient le nom Hôtel Carnavalet. En 1660, d'autres propriétaires vont demander à François Mansart de faire des travaux considérables. En 1677, Madame de Sévigné vient s'y installer pour une vingtaine d'années. Et en 1680, l'hôtel voisin, l'hôtel Le Pelletier de Saint-Fargeau, est construit. Alors, Le Pelletier de Saint-Fargeau, les érudites et les érudits se souviennent immédiatement que M. Le Pelletier de Saint-Fargeau était un député noble qui avait voté la mort de Louis XVI à la Convention et qui s'est fait assassiner quasiment le jour même ou le lendemain, je ne me souviens plus, par un garde du corps de Louis XVI, désireux de venger la mort du monarque. En 1866, le baron Haussmann, préfet de la Seine, qui détruit à tire-larigot des dizaines d'églises, d'hôtels particuliers, de monuments, se rend quand même compte, on le lui fait en tout cas remarquer, que ce serait dommage de tout saccager. Et l'idée naît de préserver des, en particulier les boiseries, les meubles, parfois certaines sculptures, certains objets que l'on trouve dans les bâtiments que l'on détruit pour que le plan haussmannien de rénovation parisienne, souvenons-nous que ces grandes avenues droites et larges ont également pour but tout simplement de permettre aux troupes gouvernementales de circuler rapidement pour aller écraser une éventuelle révolution, et leur largeur et leur rectitude sont destinées à permettre la disposition d'artillerie pour, là aussi, mettre fin brutalement à toute révolution. Donc, les dégâts causés par cette rénovation haussmannienne provoquent un peu d'indignation, un peu beaucoup d'ailleurs d'indignation, et pour essayer de la calmer un peu, Haussmann lance donc l'idée d'un musée des collections historiques de la ville de Paris. Et en toute honnêteté, il faut reconnaître qu'il y a de nombreuses salles dans le musée qui sont décorées des lambris et des meubles récupérés pendant ces destructions haussmanniennes. Je vous emmène dans une visite du musée. À nouveau, je suis approximativement l'itinéraire proposé par le musée lui-même. Mettons quand même qu'au premier étage, là où c'est le plus compliqué, le premier étage de l'hôtel Carnavalet, là je m'écarte à un certain moment de cette piste. Cela dit, elle est facile à retrouver quand vous êtes dans le musée, tout simplement. Demandez aux gardiens, qui sont en général très aimables et qui très souvent vous proposent de vous accompagner jusque là où vous voulez aller, bien demandez aux gardiens de vous remettre sur la piste. quand on entre, une fois qu'on a passé les caisses, alors attention, c'est un des musées de la ville de Paris, donc c'est un musée gratuit. Une fois qu'on entre dans la première salle d'exposition, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, c'est une salle qui est dédiée, bizarrement, aux enseignes de magasins. La rénovation a fait que les murs sont peints en blanc, donc les enseignes maintenant ressortent beaucoup mieux. Elles sont évidemment choisies pour leur pittoresque. On a par exemple non pas tant une enseigne qu'une plaque de rue, ou plus exactement le découpage de l'inscription gravée dans la pierre de taille d'une rue, et cette rue s'appelait rue des mauvais garçons. Un nom parfaitement explicite et descriptif, puisque, souvenons-nous, Victor Hugo nous le rappelle dans Notre-Dame de Paris, il y avait bien dans Paris des lieux, en un sens réservés aux mauvais garçons, les fameuses cours des miracles, et Louis XIV se vantera, en particulier sur le plafond de la Galerie des Glaces à Versailles, Louis XIV se vantera de les avoir détruites. Un autre objet amusant dans cette salle dédiée aux enseignes de magasins, eh bien, c'est un bas-relief avec une truie, et une truie qui se dresse verticalement et dont on voit les mamelles gonflées. Et l'enseigne du magasin, c'était à la truie qui file. Bien entendu, vous avez d'autres enseignes tout à fait charmantes, par exemple, vous en aurez une avec un griffon, etc. Donc, appréciez-les. Et puis, au fond de la salle, vous tournez à gauche. Et cela vous permettra d'entrer dans la salle 0.02. Et là, dès que vous entrez, regardez immédiatement sur la droite, car il y a quelque chose qui a fait récemment scandale. Place de la Contrescarpe. Au-dessus d'un très ancien magasin de cafés et de chocolat, il y avait une grande toile. Et cette toile est à présent dans cette salle du musée Carnavalet. Qu'est-ce que cette toile représente ? Elle représente un homme noir qui, bien entendu, quel hasard, sourit de toutes ses dents très blanches. Et il a de bonnes raisons de sourire, l'homme noir, parce qu'il est en costume d'aristocrate français, ce qui, bien entendu, était extrêmement rare pour les esclaves noirs que la France dans ses colonies a eus pendant des siècles. Et cet homme noir qui sourit de toutes ses dents, il sourit parce qu'une dame blanche lui sert de l'excellent café. Et c'était évidemment une enseigne pour ce magasin de café. Là où le problème se posait, c'était bien entendu le nom même du magasin, qui s'appelait « Au Nègre Joyeux ». Alors évidemment, ces mots-là, ça posait un problème. Et à partir des années 90, le problème est devenu très concret parce que tout d'abord, des associations ont demandé à ce que l'enseigne soit retirée. Et comme l'enseigne n'était pas retirée, des gens ont commencé à lancer des boules de peinture, voire des pierres. Ce qui était évidemment relativement peu agréable pour les voisins quand les gens visaient mal et que les fenêtres de ces parfaitement innocents voisins se voyaient détruites. Ça, on a beaucoup réfléchi, débattu et discuté. Et finalement, la mairie de Paris a décidé de couper la poire en deux. Elle a retiré de la façade à la fois la toile et l'enseigne. L'enseigne est conservée, mais elle n'est plus visible puisqu'elle est dans les réserves de Carnavalet. Et la toile est exposée dans le musée. On peut donc la voir. Alors, je rappelle là-dessus qu'il y a bien une connotation un peu raciste en ce sens que c'est un homme noir et donc il n'y avait que deux moyens de représenter les hommes noirs en règle générale, ou bien c'était d'affreux sauvages, stupides, brutaux, envahissants, etc. Ou alors, y a bon banania, le bon nègre heureux. Cela dit, le fait qu'il soit servi par une femme blanche avait permis, pendant tout le débat qui avait eu lieu, de dire « oui, non, mais c'est finalement pas si raciste que ça ». En tout cas, l'image est tout à fait surprenante, elle est tout à fait rare, et on peut la voir. Et on note d'ailleurs qu'autour, il y a deux autres enseignes, dont l'une s'appelle « À la tête de nègre », et dans les deux cas, qui montrent effectivement, là aussi, des têtes d'hommes noirs représentées de façon sinon réaliste, du moins pas scandaleusement raciste. Dans cette même salle, on a aussi l'enseigne d'un lieu célèbre, la Tour d'Argent. Alors la Tour d'Argent serait, selon ses propres dires, le plus ancien restaurant de Paris. Alors, le plus ancien restaurant de Paris, pourquoi pas ? La Tour d'Argent affirme qu'elle a été fondée en 1582 et qu'elle a été un restaurant sans interruption depuis. Les historiens ont quelques petits problèmes avec ça parce qu'ils disent c'est bien gentil, mais hormis les affirmations en un sens purement oral des gens de la Tour d'Argent, on ne connaît pas de traces écrites qui permettent d'affirmer que c'est bien en 1582 que la Tour d'Argent a été fondée. Bon, en tout cas, il y a une chose est sûre. Un, c'est l'un des plus vieux restaurants de Paris. Deux, la vue, j'y suis allé avec des clients, est absolument stupéfiante. Et petite chose qui, j'espère, vous fera sourire, quand j'y suis allé avec des clients dans mon métier de guide touristique, donc évidemment, ça n'était pas moi qui payais l'addition, je m'attendais quand même à ce que ce soit un restaurant de grand luxe, comme ça en a l'apparence, et comme les prix, en tout cas, affirment que c'en est un. Et quelle n'a pas été ma surprise un peu narquoise de constater que le serveur qui venait nous servir, dans un superbe habit à queue de pie, comme tous les autres serveurs, eh bien, sur cet habit à queue de pie, j'ai eu le temps de constater la présence de 5, je dis bien 5, larges taches de graisse, alors larges comme une moitié d'orange, 5, et puis j'ai regardé les autres serveurs, et il y avait à peu près la même quantité de taches de graisse sur les queues de pie des autres serveurs.
We can walk together down in the
C'était Dixie Chicken de Little Feat. Et sur la couverture de l'album, The Very Best of Little Feat, il y a un canard avec un chapeau comme Humphrey Bogart. Et comme nous parlions de la tour d'argent, dont vous savez que la spécialité c'est le canard au sang, il m'a semblé que c'était là une illustration musicale des plus pertinentes. Nous sommes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, et hélas, sans beaucoup de canards. Et c'est toujours Les Muses s'amusent, c'est la première des émissions consacrées au Musée Carnavalet de Paris. Alors, nous étions dans la salle 002, et vous tournez à gauche au fond de la salle 002, et vous entrez dans la salle 003, qui est consacrée aux enceintes et aux plans de Paris. Vous verrez sur le mur de gauche, vous verrez différentes versions du blason de Paris, donc les armoiries de Paris, et vous savez qu'elle se compose d'un bateau sur un fleuve, le fleuve, la Seine bien entendu, avec la devise latine « fluctuat nec mergitur », il flotte mais ne sombre pas. Et ce blason s'explique, comme vous le savez, par le fait qu'officiellement Paris a été fondé par des nôtes, une tribu de marchands du fleuve, une tribu de navigateurs sur le fleuve, qui s'appelait les Parisiens. Souvenons-nous que le nom Paris est un nom qui arrive relativement tard, puisque on pense que le premier nom de Paris, en tout cas celui que lui avaient probablement donné les nôtres, ça devait être quelque chose comme Leucothéquia. Et certains historiens ont affirmé que Leucothéquia serait un mot en gaulois, ou en tout cas dans le langage des Parisiens, qui signifierait des habitations au milieu des eaux, ce qui serait un nom parfaitement logique pour une île fondée, pour une ville, pardon, fondée sur une île et entourée d'un marais. Et puis, les Romains envahissent Leucothéquia, et soit qu'ils aient eu cette idée bizarre, on ne sait pas comment, soit qu'ils aient tout simplement eu du mal à prononcer Leucothéquia, ils appellent la ville Lutetia. Et puis, en 460, qu'est-ce qui se passe? L'Empire romain s'écroule. Et donc, relativement peu de temps après, la ville va commencer à être appelée Civitas Parisorum, la cité des Parisiens, un nom infiniment trop long, et qui a été rapidement abrégé en Paris. Dans cette salle 003, vous avez donc ces blasons dont je viens de parler, mais vous avez sur un grand pan de mur, qu'on ne peut vraiment pas louper, un très grand plan de Paris, dû à un artiste au nom italien, M. Tamburini, et qui serait daté des années 1632-1641. Alors c'est un plan qui triche un tout petit peu, puisqu'il semble être pris depuis une montgolfière ou un ballon, mais évidemment en ces années-là, ça n'existait pas. C'est pas grave, le plan est quand même plein d'informations, entre autres choses pour ce qui concerne les îles de Paris. À l'heure actuelle, nous avons officiellement trois îles dans Paris. L'île de la Cité, le nom explique que c'est là où Paris a été fondé, l'île Saint-Louis, et une île qui était en fait plutôt une digue, ou en tout cas une construction artificielle récente, qui est l'île aux Cygnes. À cette époque, 1632, etc., il n'y a pas d'île aux Cygnes, il n'y a pas non plus... Et l'île Saint-Louis vient juste, l'île Saint-Louis vient juste d'être raccordée à partir des deux îlots qui la constituaient, deux îlots où il n'y avait pas de construction, puisqu'il s'agissait de propriétés du chapitre de Notre-Dame, où ce chapitre faisait paître ses vaches. D'où d'ailleurs le nom de l'un de ces deux îlots, l'île aux vaches. Les deux îlots furent vendus à un entrepreneur, M. Christophe Marie, et ce M. Christophe Marie les raccorde, puis construit des bâtiments dessus, vend les dix bâtiments, fait fortune, et quand il est devenu bien bien riche, le chapitre de Notre-Dame lui a fait un procès, l'a complètement spolié, et il a terminé sa vie complètement ruiné. C'est la raison pour laquelle il y a un pont à partir de l'île Saint-Louis qui s'appelle le pont Marie, qui n'a rien à voir, pour une fois, avec la Vierge Marie. C'est tout simplement le pont qui honore ce monsieur qui a créé l'île Saint-Louis. Mais quand on regarde attentivement ce plan, où d'ailleurs on voit que l'île Saint-Louis, il y a encore très très peu de bâtiments, ça commence juste à être construit, on voit que derrière l'île Saint-Louis, ou plus exactement à l'est de l'île Saint-Louis, que voit-on? Une île. Mais là, il n'y a pas d'île. Oui, on appelait ça l'île Louvier, L-O-U-V-I-E-R-S. Et l'île Louvier, pas tellement plus tard après, après le fait d'avoir fait ce plan, eh bien, elle sera rattachée à la rive, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne la voit plus. Et puis, deux autres éléments intéressants dans ce plan, qui en a beaucoup, regardez un petit peu au sud de la dite île Louvier, et vous verrez sur la rive gauche un grand bâtiment et puis une espèce de terrain peu construit. C'est là que va être très vite construits les bâtiments de la Salpêtrière. Alors la Salpêtrière au départ c'est quoi ? C'est bien un lieu où on produit du salpêtre pour la poudre à canon, mais Louis XIV, dans son abominable projet de grand renfermement de tout ce qu'il y a de marginal dans Paris, eh bien, il va créer ici ce que l'on peut appeler une poubelle à femmes. J'en ai déjà parlé dans d'autres émissions. C'était un lieu énorme qui avait plus ou moins 4000 pensionnaires, alors des prostituées et des protestantes, des avorteuses et des avortés, des folles, des complètement folles, des femmes malades en cas d'épidémie, des orphelines, des sorcières ou prétendues telles, et puis, histoire de corser le tout, tout simplement des femmes dont les maris voulaient se débarrasser. Alors il suffisait à ces maris d'écrire au lieutenant de police et d'accuser leurs femmes d'adultère, de payer ladite pension pour les femmes, et ces malheureuses étaient envoyées dans cette gigantesque poubelle à femmes que fut la Salpêtrière pendant, en gros, presque 2 siècles. Puis, en restant toujours vers l'est de Paris, mais en revenant sur la rive droite, vous voyez à l'extrémité, quasiment au mur d'enceinte, un drôle de bâtiment, et le plan le dessine assez mal, on croirait presque voir un temple grec avec ses colonnes. Mais si on regarde un peu plus attentivement, puis surtout que l'on réfléchit à son emplacement, on s'aperçoit que tout simplement, il s'agit de la Bastille, qui est représentée beaucoup plus grande qu'elle n'était en réalité, alors même que la Bastille n'était absolument pas devenue le symbole de la Révolution française, mais en revanche, elle était déjà une prison d'État extrêmement célèbre. Quand vous sortez de cette salle, en continuant tout droit, vous passez salle 004, vous passez un escalier, et vous allez entrer dans la salle 005. Et dans cette salle 005, vous allez avoir un objet qui aujourd'hui est très désagréable, puisqu'il s'agit d'un vase, c'est un très beau vase, mais qui est consacré aux Jeux Olympiques. Alors évidemment, heureusement pas les Jeux Olympiques de 2024, mais les Jeux Olympiques de 1924, qui étaient déjà le festival patriarcal, raciste et nationaliste que l'on sait. Un autre objet, la maquette d'un bateau, l'un des premiers bateaux-mouches. C'est un bateau-mouche dont le modèle réel, dont l'équivalent réel, fut mis en service en 1895. Alors le débat fait rage sur l'explication du mot bateau-mouche. Il y a 2 théories. Première théorie, les bateaux auraient été fabriqués, disent les uns, dans le quartier de la Mouche à Lyon, d'où leur nom de bateau-mouche. Et une autre théorie qui dit que, comme ces bateaux furent présents pour la première fois lors d'une exposition universelle, et qu'on les voyait aller dans un sens, dans l'autre, comme des mouches sur un mur, l'esprit Titi Parigo les a rapidement baptisés bateaux-mouches. Vous choisissez l'origine qui vous amuse le plus. Ne manquez pas, quand vous sortez de cette salle, un grand tableau qui vous représente visiblement une vue de Paris, mais qui est une vue prise de Montmartre, à l'époque où Montmartre appartenait encore à l'abbaye du même nom. Et cette abbaye gagnait sa vie, entre autres choses, avec des vignes, mais aussi avec des carrières dont on extrayait en particulier du gypse pour faire du plâtre. D'où le nom d'une rue qui descend de Montmartre, c'est la rue Blanche. Blanche à cause de la poussière de plâtre qui tombait des chariots pleins de ce matériau qui sortait des carrières et des ateliers. Thank you.
be jitterbugs, a little jitterbug looking for a place to jive. I'm not a corny hick, I know a real hot dick, cause I'm a jitterbug, mighty glad that I'm alive. Give me a solid sender, not just an elbow bender. Don't want no old time jazz, no razzmatazz, just swing. Cause I'm just a jitterbug, a happy when he's blowing through his hat. Just listen to that gentleman, he's getting awful lit. Say when that baby goes to town, he sure is mighty slick. And now listen, folks, and you will hear the drummer of the band. That he's the drummer by that drumstick in his hand. So gather round me all your cats, let each man do his part. Come on, you leader, beat it all, the jamming's gonna start.
C'était I'm Just a Jitterbug d'Ella Fitzgerald. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans dieu, sans maître et sans publicité. Ce sont toujours les Muses s'amusent et nous sommes dans la première émission du cycle consacré au musée Carnavalet de Paris. Je vous ai laissé dans la salle 005, vous continuez toujours tout droit en suivant le chemin indiqué par le musée, et au bout de la salle, vous allez tourner à gauche, et au bout de quelques mètres, vous verrez un escalier qui va descendre dans les caves de l'hôtel Carnavalet. Vous rassemblez tout votre courage et vous descendez dans cet escalier. Vous arriverez d'ailleurs dans la salle S01, et vous avez même deviné qu'il s'agit de dire la première salle du sous-sol. Une chose apparemment de peu d'importance, mais en fait pleine d'enseignements, c'est sur le mur de gauche une carte des sites mésolithiques d'habitation autour de Paris. Bon, les habitations du mésolithique autour de Paris, c'est fort intéressant, mais c'est pas tellement ça que je veux commenter. C'est une carte qui permet de se rendre compte de la raison pour laquelle Paris est devenue la ville qu'elle est devenue. Souvenons-nous qu'en France, nous n'avons que 4 grands fleuves, mais que ces 4 grands fleuves, eh bien, il y en a 3 qui sont soit pas navigables du tout, comme la Loire, soit navigables avec plein de difficultés et certainement pas à tous les moments de l'année, comme le Rhône et la Garonne. Seule la Seine, pendant des siècles, a été relativement navigable, relativement presque toute l'année. Par conséquent, la Seine a été pendant très longtemps la principale artère commerciale du pays, même si l'État-nation France n'existait pas, il y avait déjà une espèce d'unité géographique dont la Seine était bien la principale artère. Or, où est situé Paris ? Eh bien, Paris est situé juste un tout petit peu à l'ouest du confluent de la Marne et de la Seine. Alors la Marne est également une très grande rivière, d'ailleurs certains géographes disent qu'on ne devrait pas appeler la Seine on devrait l'appeler la Marne, glissons. La Marne vous emmène dans l'autre sens, vaguement dans la direction de l'Allemagne en tout cas, vers l'est. Et puis vers l'ouest de Paris, un petit peu plus loin, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez une autre rivière, vous avez l'Oise. L'Oise qui, elle, au contraire, vous emmène vers le nord et donc en direction de la Belgique. Donc déjà, Paris est au milieu, est au carrefour d'un grand fleuve et de deux grandes rivières. En plus, Paris était bien protégé puisque à l'est, il y avait bien un marais, c'est bien le nom du quartier qui subsiste aujourd'hui, et qui était le quartier entre les deux bras de la Seine, car il y avait deux bras, un bras nord qui a disparu, mais dont le tracé est aujourd'hui encore le tracé des grands boulevards, et puis le bras sud, qui est celui qui a subsisté. Donc il y avait un marais, c'est-à-dire une excellente zone de défense. Rappelons-nous que si Venise a pu rester indépendante aussi longtemps, c'est parce qu'elle est protégée par une gigantesque lagune où les armées des envahisseurs seraient fatalement extrêmement ralenties. Et juste après ce marais, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a des îles, également des lieux bien pratiques pour la défense. Donc, on comprend que Paris ait été un lieu excellent pour fonder une ville commerciale. Mais en plus, cette ville commerciale, où est-elle située? Eh bien, elle est située au beau milieu de la zone la plus fertile de France, et rappelons-nous que la France est un des pays les plus fertiles du monde. Elle est située au milieu de ces plaines extrêmement riches que sont la Beauce, la Brie, etc. Donc, Paris avait tout pour devenir une ville riche et puissante. Depuis quand Paris existe? Alors, j'ai dit un peu plus tôt que officiellement Paris commence à peu près il y a 2300 ans quand les Parisiens s'y installent. Mais précisément, cette carte avec ses sites mésolithiques rappelle qu'il y avait très certainement déjà des êtres humains, sinon sur le site exact de Paris, du moins clairsemés à tel ou tel endroit à l'heure actuelle dans Paris, et certainement dans un grand nombre de sites dans ce qu'on appellerait le Grand Paris. Ce que l'on ne sait pas évidemment, c'est si tous ces sites que l'on a pu repérer, s'il n'y avait que cela, et si à chaque fois qu'on a repéré tel ou tel site, on en a repéré la totalité. Parce que maintenant, bien entendu, Paris est complètement urbanisé, c'est extrêmement difficile de faire des fouilles, et par conséquent, il est tout à fait concevable qu'une grande partie des résidences éventuelles nous échappent. Une chose est sûre, on a bien retrouvé les fameuses pirogues. Ces pirogues qui ont été retrouvées principalement sur le site de Bercy, on en a retrouvé au total une dizaine. Et les plus anciennes datent carrément de 4800 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire en gros presque 6000 ans avant notre époque. Ce sont des pirogues dites monoxyles, c'est-à-dire faites d'un seul bois, des pirogues qui ont tout simplement été taillées dans un tronc d'arbre. Alors quand je dis taillées, c'est la moitié ou le quart ou le tiers, je ne sais pas, de la méthode de fabrication des pirogues, parce qu'en fait, une grande partie du tronc a été évidée tout simplement en le brûlant. Donc on contrôlait le feu, et quand il avait enlevé une bonne partie du bois, eh bien, on l'arrêtait et on taillait le reste. Ces pirogues semblent marquer une occupation relativement permanente du lieu, non pas tant par elles-mêmes que parce qu'on a continué à chercher autour d'elles et on a retrouvé à la fois des pieux d'amarrage et suffisamment d'objets pour penser qu'il s'agit bien de cette occupation plus ou moins permanente et qui remet donc le débat en route quant à la date de la fondation de Paris. Si vous continuez dans la salle suivante, vous arriverez dans une salle qui s'appelle S06, alors où il y a tout un tas d'objets extrêmement intéressants sur la période gallo-romaine, et en particulier, il y a des vues de Paris, bien entendu réalisées au XXe et au XXIe siècle, qui essayent de nous donner une idée de ce qu'était l'allure de Lutetia. Mais c'est au moment où on va sortir de cette salle S06, alors c'est une toute petite sortie au fond sur la droite, et juste avant cette sortie, il y a un tableau lui aussi tout petit qui nous représente la Bièvre, cette fameuse rivière dont on n'aperçoit plus grand chose à présent, puisque comme elle avait été utilisée en particulier par les tanneurs, la Bièvre était devenue un égout à ciel ouvert. Et on l'a donc, à la fin du XIXe siècle et un peu également dans le XXe siècle, on l'a donc recouverte aujourd'hui. On n'en voit plus guère facilement que le débouché, en gros, sur le quai d'Austerlitz. Mais ça vaut le coup de regarder ce petit tableau. Petite chose sur l'étymologie du mot « bièvre ». Celles et ceux d'entre vous qui parlent un parfait anglais auront peut-être reconnu le mot anglais « beaver », c'est-à-dire castor. Et oui, la Bièvre, c'était la rivière des castors. Une fois que vous avez dépassé ce tableau, donc vous tournez sur la droite, vous tombez sur un tableau qui représente Sainte-Geneviève en bergère de son troupeau, le troupeau étant les Parisiens, qu'elle est censée avoir sauvé des uns. Bon, ouais, bof. En tout cas, une chose est sûre, Sainte-Geneviève est devenue, après Saint-Denis, la seconde patronne de Paris, et c'est la raison pour laquelle, après ce tableau, sur le même mur, en gros un mètre plus loin, vous avez une gravure qui vous représente une procession. Alors, c'est les gravures classiques qui représentent des processions, c'est en Z, pour qu'on puisse mettre le plus de gens différents possible sur l'image. Alors, il y a le guet, il y a les huissiers du Châtelet, il y a les magistrats comme ci, il y a les magistrats comme ça, il y a beaucoup de monde. Qu'est-ce que c'était que ces processions de Sainte-Geneviève? Eh bien, quand il arrivait un gros malheur à Paris, menaces militaires, épidémies, etc., on baladait la châsse avec les restes de Sainte-Geneviève dedans, et bien entendu, miraculeusement, tous les problèmes étaient résolus. Vous continuez dans cette espèce de galerie qui est la salle S07 où vous avez vu cette procession de Sainte-Geneviève. Et au bout, sur la gauche, vous allez arriver dans une salle où il y a l'une des merveilles du musée Carnavalet, une très grande maquette qui vous représente l'île de la Cité. Alors c'est une maquette qui a été élaborée au 19e siècle et qui probablement est relativement correcte dans sa représentation de ce qu'était l'île de la Cité au Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit, alors c'est une maquette qui représente, quand je dis Moyen-Âge, j'exagère un peu, c'est un peu plus tard que ça, c'est un petit peu avant Henri IV. Donc qu'est-ce qu'il y a qui diffère beaucoup de l'île de la Cité actuelle? Tout d'abord, l'énorme chaos de maisons. Il y a des maisons dans tous les sens, les rues sont des petites ruelles extrêmement étroites qui ne sont jamais bien droites, et ceci explique l'allure actuelle de l'île de la Cité. L'île de la Cité, au XIXe siècle, était devenue un bidonville et par conséquent un foyer d'agitation révolutionnaire. C'est l'un des quartiers que Haussmann va vouloir détruire de fond en comble et rénover complètement pour en chasser les classes dangereuses. Alors les classes dangereuses non seulement sont les classes laborieuses et encore pire les classes non laborieuses. C'est la raison pour laquelle Haussmann va remplacer ces taudis, ces petites ruelles, par un grand nombre de bâtiments administratifs peu susceptibles de cacher des révolutionnaires, en particulier la préfecture de police, le tribunal de commerce, etc., etc. Ensuite, on s'aperçoit que juste à côté de Notre-Dame, vous avez un bâtiment qui n'existe plus, qui était l'archevêché. À l'heure actuelle, l'archevêque de Paris vit dans un autre lieu qui n'est pas sur l'île de la Cité. Encore une différence très évidente, les maisons sur les ponts. Alors pourquoi est-ce qu'il y avait des maisons sur les ponts? Très simple, les villes moyenâgeuses, pas uniquement les villes françaises dans toute l'Europe, les villes moyenâgeuses étaient enserrées par des murs d'enceinte. Alors les murs d'enceinte, c'est très compliqué à pousser, donc quand la population augmentait, qu'on avait besoin de plus de maisons, il y avait un espace disponible qui était les ponts. Et donc les ponts étaient recouverts de maisons. Seulement voilà, à Paris en particulier, les ponts étaient presque tous, d'ailleurs pas presque tous, étaient tous en bois. Or, à l'époque, les bateaux n'ont pas de moteur. De quoi dépendent-ils pour se déplacer? Soit du courant, soit du vent, soit des rameurs. Ah, on comprend bien qu'ils étaient un peu difficiles à diriger avec précision. Or, quand vous êtes obligé de passer entre les piles de bois des ponts qui rétrécissent la rivière et qui donc accélèrent le courant sans que vous vous en rendiez nécessairement compte, eh bien tout d'un coup, votre bateau peut aller se fracasser contre les piles des ponts de bois. Le problème, c'est que si votre bateau est un gros bateau très lourd et qu'il allait relativement vite, eh bien les piles du pont de bois vont souffrir, le pont va s'écrouler. Comme il y a des maisons au-dessus et que dans les maisons habitent des gens et que les gens qui habitent dans ces maisons sur les ponts de bois, eh bien, ils faisaient de la cuisine ou ils avaient des chandelles, eh bien, il y avait très souvent des incendies qui partaient de ces ponts de bois. C'est la raison pour laquelle Henri IV et surtout Sully, quand ils décident de construire le pont neuf, il décide de le construire en pierre pour éviter ce danger et pour vraiment que ce soit ceinture et bretelles, il refuse qu'il y ait des maisons sur le pont neuf. Attention, à nouveau, la maquette n'est pas du temps pile de Henri IV, donc on ne voit pas encore le pont neuf. L'extrémité ouest de l'île de la Cité est encore un petit peu chaotique, il n'y a pas encore cette élégante pointe comme une pointe de navire qui est là maintenant, et on ne voit pas le pont neuf. Et puis, dernière chose extrêmement intéressante à remarquer sur cette maquette, le nombre stupéfiant d'églises dans l'île de la Cité. Aujourd'hui, il n'y a plus que deux églises dans l'île de la Cité, une consacrée, bien entendu, Notre-Dame, la cathédrale, et l'autre qui n'est plus utilisée comme église, sauf une fois par an pour la messe des avocats et des juges du palais de justice, la Sainte-Chapelle. Et bien, sur cette maquette, vous pourrez compter 19 églises. C'était un morceau de théorbe, vous savez que le théorbe c'est un très très grand luth avec un très grand manche, joué par Monsieur Moreno. Nous sommes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître et sans publicité. Ce sont toujours les Muses s'amusent et c'est la première émission du cycle consacré au musée carnavalet de Paris. Nous étions donc dans la salle au sous-sol, la salle S08, devant la fabuleuse maquette représentant l'île de la Cité. Au-dessus de cette maquette, vous avez une énorme gargouille. Qu'est-ce que c'est qu'une gargouille ? Le mot, déjà, est relativement parlant. En anglais, quand on se fait un lavement de bouche, eh bien, on « gargle ». Et oui, la garganta, c'est la gorge en espagnol. Gargantua, c'est le géant avec une énorme gorge. Donc, les gargouilles, ce sont bien ces objets qui sont placés sur, ou exactement juste en dessous des toits des églises gothiques et en particulier, enfin des églises en général, et en particulier des cathédrales, qui ont toujours la gueule grande ouverte, d'où leur nom de gargouille. Et à quoi ça leur sert d'avoir la gueule grande ouverte ? Eh bien tout simplement, les gargouilles sont là pour évacuer les eaux de pluie qui viennent du toit et qui sinon ruisselleraient le long des façades. En règle générale, c'est une bouche qui est ouverte, il y a quelques gargouilles assez peu respectueuses, où la créature représentée, ma foi, expulse l'eau de pluie par un orifice, que rigoureusement ma mère m'a interdit de nommer ici. Ces gargouilles, justement, quelle est leur valeur symbolique? Parce que, par exemple, sur l'église Saint-Eustache à Paris, les gargouilles ont une forme tout simplement abstraite. Elles n'ont pas de signification particulière, alors que les gargouilles des églises gothiques, par exemple, sont extrêmement célèbres et elles ont en général des formes d'animaux fantastiques, très souvent de démons. Et s'il s'agit d'êtres humains, en général, ce sont des êtres humains laids ou ridicule des êtres humains avec des vices. Alors, Joris Karl Huysmans avait dit que la fonction des gargouilles était de symboliser le fait que l'Église vomissait les vices. Ouais, bof, ça c'est une interprétation très tardive. Il est à peu près sûr que les gargouilles, d'une manière ou d'une autre, avaient une fonction apotropaïque. Alors, la fonction apotropaïque, c'est la fonction qui consiste à détourner le mal. Mais, évidemment, il y a là un petit côté païen qui dérange un chouïa la théologie chrétienne en général et catholique en particulier, parce que si l'Église c'est la maison de Dieu, Dieu est censé être suffisamment puissant pour repousser le mal par lui-même. Donc cette fonction apotropaïque qu'il semble difficile d'expulser du symbolisme des gargouilles venait certainement de la culture populaire. Et bien entendu, un grand nombre de prêtres étaient partageaient complètement cette culture populaire. Cela dit, justement, à propos de culture populaire, il y a une autre interprétation qui n'est pas d'ailleurs incompatible avec cette fonction apotropaïque et qui m'amuse considérablement. Et cette fonction, c'est la suivante. On sait que dans les églises médiévales, il y avait ce qu'on appelait les miséricordes, donc ces sièges à abattant et sous l'abattant à un endroit que théoriquement on n'était pas censé pouvoir voir normalement, eh bien on avait sculpté des scènes qui sont souvent des scènes absolument stupéfiantes parce que ce sont souvent des scènes pornographiques, scatologiques et même parfois blasphématoires parce qu'on y représente des sirènes, des démons, donc des choses soit démoniaques soit païennes. Et ça prouve bien que pour les gens du Moyen-Âge qui sont absolument persuadés que Dieu, plus exactement, qui sont censés être à leur image, mais en fait, dans leur tête, c'est Dieu qui est à leur image. Donc Dieu, c'est un être humain, un vieux monsieur barbu. Et puis, l'Église, c'est la maison de Dieu. Donc, comme les gens au Moyen-Âge n'arrêtaient pas de se faire des plaisanteries plutôt grasses les uns aux autres constamment, et aux prêtres aussi, et entre prêtres aussi, il devenait parfaitement normal de faire des plaisanteries à Dieu, contre Dieu, dans la maison même de Dieu, d'où les miséricordes, mais donc aussi d'où les gargouilles. Le fait de mettre ces démons sur les murs même de la maison de Dieu, c'est une bonne plaisanterie à lui faire. Alors, c'est une plaisanterie qui est acceptable par les prêtres, parce que ces démons, ces figures démoniaques, sont humiliées. Comment ça, elles sont humiliées? Ben oui, elles absorbent l'eau de pluie, passez-moi l'expression, par leur trou du cul, et le recrache par la bouche, on fait difficilement plus humiliant. Donc cette interprétation, à moi, me plaît beaucoup. La petite difficulté, c'est qu'on n'a en gros pas de texte du Moyen-Âge disant « voilà, il y a des gargouilles et voici ce qu'elles signifient ». Donc on est un peu libre de préférer telle ou telle interprétation. Vous remarquerez de l'autre côté, en face de la gargouille, un grand tableau du XIXe siècle d'un excellent peintre, on va dire un peintre-architecte, M. Hofbauer, qui a peint une longue série d'images de Paris médiéval qui sont plutôt bien recherchées et qui donnent une idée pas trop loin de la réalité probablement du Paris médiéval. Et ce tableau-là, il est représenté, c'est la vue qu'on voit depuis le Louvre. Alors à nouveau, il s'agit là des îles, en particulier de l'île de la Cité, en 1588, donc avant la construction du Pont Neuf. Donc la pointe de l'île de la Cité n'est pas encore, à nouveau comme dans la maquette, elle n'a pas encore cette élégante forme en pointe de navire. Et surtout, on remarque deux choses. D'abord, on remarque que les quais de la Seine sont encore des quais complètement naturels. Ce sont des grèves. Et oui, souvenons-nous, il y a la place de grève à l'hôtel de ville, donc ce sont des plages visiblement instables et changeantes. On y remarque quelque chose. on y remarque des bateaux, mais à bien y regarder, on s'aperçoit que ce ne sont pas tellement des bateaux, que ce sont bien plus des pontons. Donc des choses qui moitié flottent sur l'eau, moitié sont retenues par des piliers, et qui servaient tout simplement aux lavandières.
Moi si nous pour l'amour, je sais qu'nous voilà que Stiu mărmânti Oada la crân Și sustine Până mă băgam pe Ține această fotografie și poartă-o la sinul tău când ce-a fi mai dor de mine să-mi sărut portretul meu. Ce-a fi mai dor de mine să vin la mă la mine să nu iarba după mine că ți-a fost băiacul.
C'était la première émission du cycle consacré au musée carnavalet à Paris dans Les Muses s'amusent. Nous nous retrouvons le premier lundi de chaque mois. Plusieurs émissions vont être consacrées à ce très grand et très riche musée. Pour l'instant, nous étions donc dans le sous-sol et dans les prochaines émissions, nous continuerons à explorer le sous-sol et puis nous remonterons dans les étages du musée carnavalet. S'amuse. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité.
quoi, c'est là qu'habite l'espoir. Un lit, une armoire, un petit foutoir, c'est là qu'habite l'espoir. Les causes perdues, Édouard pense que c'est à lui de les sauver. Humanitaire, il espère en souriant y arriver. Rien à voir avec Elsa qui met, elle, juste son espoir enflammé dans un amour sans faille pour lui, le susnommé. La porte noire au bout du couloir, c'est là qu'habite l'espoir. Un lit, une armoire, un petit foutoir, c'est là qu'habite l'espoir. C'est là qu'habite l'espoir. C'est là qu'habite l'espoir.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir Dutron et on a vu Dutron. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont-Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare. J'ai vu les fleurs du mal par hasard. T'as plus aimé Paris, on a quitté Paris. T'as plus aimé Dutron, on a quitté Dutron. Maintenant je confonds ta sœur et le Mont-Valérien. De ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance, puisque j'ai vu Pigalle et la gare Saint-Lazare. C'est cher et ça fait mal au hasard. Mais je te le redis, chauffe Marcel, chauffe. Je n'irai pas plus loin, mais je te préviens, caille, 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 le voyage est fini. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. Chauffe, chauffe, chauffe. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est faux. T'as plus aimé ta mère, on a quitté sa sœur. Comme toujours. Chauffez les gars. Mais je te le redis, caille, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir Dutron et on a vu Dutron. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont-Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle. Regarde Saint-Lazare, j'ai vu les fleurs du mal.
Les trottoirs de Paris me battaient la semelle. Pousser sa ritournelle devant quelques pigeons désœuvrés maigrichants, devant quelques passants qui passent plus qu'en rond. C'était Paris, moi doux, c'était pas drôle du tout. Paris artificiel, Paris tour de Babel. Alors,
les croyants, que nous autres les mécréants, on n'aimerait pas quitter la vie en trottinant d'un paravis, cœur léger et sans un radis, sur les chemins du paradis. N'imaginez pas qu'on se réjouisse à l'idée de ces vers qui glissent et se nourrissent de nos histoires dans les replis de nos mémoires. Ces hordes d'asticots qui grouillent, nous aussi, ça nous fout la trouille. Priez pour nous, pauvres athées, priez pour nous, les pas gâtés. On a les foi, mais pas la foi. Pareil qu'on a pas l'âme. Sans autre forme de procès, Dieu nous interdit l'accès aux voluptés de l'espérance en d'éternelles vacances. Il a réservé ses dimanches à ceux qui montrent patte blanche. Se foutant du quart comme du tiers, il a dessiné la frontière. D'un côté, tous les bienheureux, promis au royaume des cieux. De l'autre, allez savoir pourquoi, toute une armée de types comme moi. Priez pour nous, pauvres athées, priez pour nous, les pas gâtés. C'est Dieu qui nous tourne le dos, qui nous fait pas de cadeaux, qui dit qu'on a pas d'âme. Si c'est ainsi qu'est vraiment Dieu, un petit fonctionnaire besogneux, un boutiquier fade et mesquin, qui dit que pour garder son pain, il faut savoir donner les miettes, tomber à côté de l'assiette. Si l'Éternel est à ce point, si misérablement humain, s'il est à notre piètre image, jusque dans l'idée du partage, y a vraiment rien à en tirer. Je suis athée, je suis atterré. Eh ben si Dieu croit pas en nous, on s'en fout pas mal, mon amour. Je brûle des cierges à tout essaim, bras en croix dans un lit moelleux, nous deux, on est très pieux. Je ne me fie qu'à tes instincts, et quand tu dis que tu crois en moi, c'est le désir qui croit en moi. Je suis à tes pieds, et je n'ai Dieu que pour tes yeux. Ce qui est pris n'est plus à prendre, et notre avenir ne peut attendre. Nous les athées, nous laissant en ciel, on n'espère plus le bonheur factice de leurs cieux d'artifice. Nous, on ne croit qu'à l'essentiel, et pour honorer notre foi, on étanche notre soif. On s'abreuve du vin d'ici plutôt que de l'eau de là.
Radio Libertaire 89.4.
Le temps des divorces semble prendre fin. Quelle est cette force qui revient soudain? Dedans et dehors se font de son peur. La vie pèse dans les cœurs. Elle est retrouvée la liberté. Elle est retrouvée la liberté. Le feu sur la mer s'allume et rougit. L'ardeur de l'enfer dans le paradis. Partir et rester, le large et le bord. L'angle avec la fée, le sud et le nord. Elle est retrouvée, la liberté. Elle est retrouvée, la liberté. Une autre puissance pénètre le tout. Une autre naissance triomphe partout. Sur la soie, le sable, des monstres splendides, inimaginables, nous servent de guide. Elle est retrouvée, la liberté. Elle est retrouvée, la liberté.
À l'hôtel.
Comme chaque matin, je me décide à tout raconter. L'espace de 10 minutes, je refais l'inventaire de tout ce qui est et qui va m'arriver. La grisaille infinie et abstraite s'offre à moi sans pudeur, dans une douceur et une violence partagées. Je ne sais pas encore si je dois continuer à me tenir debout ou à laisser mes muscles se détendre. Ces quelques gouttes de café avalées réveillent en moi ce fossé, ce trou qui m'aspire et me fait suffoquer. Il pleut. Des silences, les bruits de ton absence, pour que ça recommence, faudra s'emplir d'essence. À ce que je voyais distinctement. Quand une image est nette, je la floute. Je ne veux rien voir, sinon m'aveugler. J'avais déjà, dans un champ matinal, avalé la rosée d'un matin délavé. J'étais gelé. Le soleil voilé promenait ses rayons sur un tapis jaune et orangé. J'étais marbré. À quel moment la feuille se décide-t-elle à lâcher ? Petite feuille colorée, laisse le vent la caresser. Il pleut des silences, les bruits de ton absence, pour que ça recommence, faudra s'emplir d'essence. Pour que ça recommence, faudra s'emplir d'essence.
Que nous avons suivi, tous nos détours nous ont menés ici, ici ensemble et maintenant, tout devient tellement plus évident. Tant de fois nous nous sommes perdus, tant de fois nous nous sommes cherchés, tant de fois nous avons cru que jamais ou jamais nous ne pourrions y arriver. Soyons de ceux qui pensent encore qu'il y a bien une vie avant la mort. Si elle était là, juste dans nos yeux, ne demandant qu'à briller de mille feux, et quitte à nous brûler les ailes, si nous nous embrassions avec elle, si nous la laissions nous emporter, loin des vents mauvais.
Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomade et vagabonde. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.
D'une seule chose, soyons coupables d'avoir osé nous et nos semblables ouvrir nos cœurs, nos corps et nos êtres à tous ces improbables peut-être. Toutes ces choses inaccessibles pour qui ne croit pas en l'impossible. Si elles étaient là, juste sous nos pieds, si nous n'avions qu'à les ramasser, comme ceux-là qui ont écrit notre histoire, ces âmes rebelles en nos mémoires. Au pied du mur qu'ils ont bâti, saurons-nous relever le défi? Saurons-nous enfin nous reconnaître? Saurons-nous enfin nous reconnecter? Sommes-nous sur la même longueur d'onde, positive et vagabonde?
Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomade et vagabonde. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomade et vagabonde. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.
avant qu'aujourd'hui ne s'achève, avant que demain ne nous enlève. Profitons de ce voyage sans retour, le ciel peut bien attendre encore un jour. Nos voix, nos rêves à l'unisson, nos sourires, nos larmes, nos frissons. Ici le temps ne nous est pas compté, en cet instant d'éternité.
Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomades et vagabondes. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomades et vagabondes. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel encore et encore quelques milliards de
ça s'attrape, c'est un microbe qui frappe un petit coup. En deux temps, il est chez nous, trois mouvements de partout. Il entre vite dans tout le corps, il gravite, pas un coin qu'il ne visite et en réchappe. On ne sait pas comment prendre ce malvenu, nous surprendre comme un voleur. D'être malade, on a peur, on ne trouve aucun docteur qui nous le tue. Crescendo, il s'accentue, on soupire, on s'habitue, il est si tendre. Belle comme est suspendue à l'arbre un fruit défendu, pomme d'amour. La mélodie de toujours et ses de nouveaux atours. Et l'on constate que l'on joue de l'omoplate, que l'on souffle, que l'on gratte, on est perdu. La musique, ça s'attrape par le cœur ou par les pattes ou par la tête. Il paraît que pour la fête, il y a plein de petites bêtes qui se rappliquent. S'il advient que le moustique de la musique me pique, hop, je l'attrape. S'il advient que le moustique de la musique me pique, hop, je l'attrape.
Un cri hante la mémoire du monde. Un clou planté loin dans la chair de nos nuits et qui hurle une aube impossible. Homme de révolte, homme de douleur, bûcher contagieux, dévalant les siècles, vous sillonnez l'histoire d'oiseaux rouges. Et nous, en cette heure, en ce lieu, dans nos corps verrouillés et dans nos langues mortes, et nous, désarticulés dans les miroirs du vide, quand désosserons-nous la manigance.
Quelques cabanons barbelés du côté de l'aéroport. On n'a pas mis les miradors, mais il faut sortir pour pisser. Les étrangers qui ont du pognon, ils ont le quai Gustave Adore, secret bancaire. Baignoire en or, inscrit dans la Constitution. Comment faire un pays heureux en étant si peu chaleureux?
c'est bien joli, un pays vert, mais pas tant qu'un pays ouvert. Comment faire un pays honnête en étant juste à moitié net, à toujours tout faire pour les riches? On est juste un pays qui triche, on est juste un pays qui triche. La petite vendeuse de la Migros peut vraiment rien pour ses impôts. Quand elle a payé son loyer, elle est simplement lessivée. La petite vendeuse de la Copée revérifie sa fiche de paie. Quand elle voit la pile de factures, elle trouve la vie carrément dure. Comment faire un pays heureux en étant si peu chaleureux? C'est bien joli un pays vert, mais pas tant qu'un pays ouvert. Comment faire un pays honnête en étant juste à moitié net, à toujours tout faire pour les riches? On est juste un pays qui triche, on est juste un pays qui triche. Parqués dans des salons de massage, des Lolitas basanées viennent astiquer le Suisse de passage pour la poésie et l'hygiène. Tandis qu'au palais fédéral, assis sur des lingots douteux, les banquiers gardent le moral, servant encore des